Au lieu de l'histoire, en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est Chamonix et sa compagnie des guides. À toute chose, malheur est bon. Le 20 août 1820 voit se jouer le premier drame du Mont-Blanc. Le temps se dégrade brusquement au Grand Mulet. Les 5 guides paysans qui accompagnent le docteur Hamel, conseiller du tsar de Russie, chargé d'une mission scientifique, hésitent à poursuivre l'ascension. Mais leurs clients les traitent de lâches. Alors vexés, ils avancent. La corde, les crampons sont encore peu utilisés. On taille des marches dans la glace à l'aide de piolets. On transporte des échelles. La couche de neige est épaisse. Tout d'un coup, au niveau des rochers, rouges, 3 guides sont emportés par une plaque avant et disparaissent au fond d'une crevasse. Cet accident pose la question de la responsabilité au sein d'une caravane et montre l'urgence d'une meilleure organisation des courses en montagne. Le 24 juillet 1821, approuvé par les autorités locales, les statuts de la Compagnie des guides de Chamonix voient le jour, instaurant un monopole en faveur des habitants de la commune, seuls à pouvoir diriger les touristes sur le Mont-Blanc et dans les environs. Afin d'assurer une égalité entre ces hommes au caractère bien trempé, le client est tenu de prendre celui dont c'est le tour de rôle. Un guide-chef veille au grain, même si les plus expérimentés conservent des privilèges et la première liste de la compagnie détaille les noms de 34 guides avec en numéro 1 Jacques Balma, le vainqueur du Mont-Blanc en 1786. Dans la foulée, le gouvernement sarde affine et complète ce règlement. Tout d'abord, on distingue les guides des porteurs dont le nombre passe respectivement de 40 à 24. On fixe aussi une tranche d'âge, de 23 à 60 ans. Les courses tarifées classées en 2 catégories, les extraordinaires, entre autres le Mont-Blanc et les glaciers par exemple, et les ordinaires, ne peuvent partir le dimanche et les jours de fête que si les guides ont entendu la messe. Autant dire que le curé doit se lever de bonne heure. On met en place une caisse de secours, grande avancée sociale pour l'époque. Le monopole chamoniard est réaffirmé. Les affaires marchent bien. Chapeau à large bord, tenu en drap de Bonneval. Les guides portent un brassard en septembre 1838 sous la conduite de Jean-Marie Coutet. Plusieurs d'entre eux accompagnent Henriette d'Angeville, la première femme alpiniste au sommet du géant des Alpes. Les ressources financières de la compagnie s'accroissent. Dans un esprit de partage, de cordée, aides et indemnités sont versées aux familles en cas d'accident. Une pension de retraite est allouée aux plus anciens. On paie le salaire d'un prêtre. On finance la construction de retables dans l'église de Saint-Michel. Bientôt, 60 guides et 30 aspirants forment la compagnie, mais la réussite cause de la jalousie. Celle des hôteliers, qui ne peuvent plus choisir librement un guide pour leurs clients. Celle des aspirants guides recalés. Une pétition circule. En 1852, le roi de Sardaigne intervient pour mettre fin au numerus clausus et ouvrir une école de langues étrangères, anglais et allemand. En cette seconde partie du XIXe siècle, les Britanniques sont de plus en plus nombreux. C'est l'âge d'or de l'alpinisme, celui au cours duquel la plupart des sommets des Alpes sont gravis. Michel Croze et son client André-Édouard Wimper sont les premiers à conquérir l'Aiguille Verte, celle d'Argentière, les Grandes Jorasses, le Cervin, mais aussi la descente de la montagne suisse. Le prince des guides fait une chute mortelle en 1865. Quelques années plus tard, un autre accident survient au Mont-Blanc, faisant 11 victimes, dont 8 membres de la compagnie. Cependant, l'alpinisme réserve aussi de belles histoires. Fin janvier 1876, la Britannique Isabella Stratton réussit la première hivernale du toit de l'Europe avec son guide favori, Jean Charlet. Une idylle se noue par moins 24 degrés et au mois de novembre suivant, les amoureux des cimes convolent à Argentière. Le nouveau siècle débute avec des exploits de Joseph Ravanel, surnommé Le Rouge, en raison de la couleur de ses cheveux. Il enchaîne les premières, notamment dans les Drus, et guide le roi des Belges, Albert Ier, rebaptisé Joseph Ravana dans le premier de cordée. Il inspire son auteur, Roger Frison-Roche, premier étranger à la vallée de Chamonix, qui intègre la compagnie en 1930 avec l'appui d'Armand Charlet, le plus grand guide des années 1920, lequel effectue la traversée des aiguilles du Diable et gravit 100 fois l'aiguille verte par 14 itinéraires différents, dont 7 nouveaux. Entre-temps, la première fête des guides se déroule le 15 août 1924, son but alimenter la caisse des secours. On inaugure un rituel toujours d'actualité. La messe, avec la bénédiction des cordes, des piolets, précède les hommages, les chants, les discours, la parade des membres de la compagnie dans les rues de la capitale mondiale de l'alpinisme, sans oublier le dépôt de gerbes sur la tombe des guides morts en montagne. Au lendemain du second conflit mondial, l'activité redémarre lentement. Au bureau des guides, où apparaissent de nouveaux visages, le Marseillais Gaston Rebuffat, le Grenoblois Lionel Théré et le Haut-Savoyard Louis Lachenal. La compagnie assure en outre une des missions premières, sauver des vies, mais là encore, les choses évoluent avec une nouvelle tragédie au Mont-Blanc. L'installation du téléphérique de l'Aiguille du Midi, le ski hors-piste, la multiplicité des hivernales, l'arrivée de l'hélicoptère, les secours sont confiés au peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM. Il faut attendre 1987 pour voir la première femme, Sylviane Tavernier, intégrer la plus ancienne compagnie des guides de montagne, dans laquelle, tradition oblige, la salle du tour de rôle reste inaccessible à toute personne étrangère, à l'institution dont le bureau situé place de l'Église côtoie celui de l'école de ski français et de l'office de haute montagne. Un tiers des 150 guides de Chamonix, formés par l'École nationale de ski et d'alpinisme, titulaires d'un diplôme d'État, exercent à temps plein alors que 60 accompagnateurs en moyenne montagne encadrent les sorties raquettes, canyoning et VTT. Dans un décor de rêve, la Mecque des guides s'adapte à l'évolution du sport en milieu alpin, tout en perpétuant les valeurs héritées des anciens, droiture, exigence et solidarité. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en Pays de Savoie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.